Multimédia. Une coproduction Radio Campus Lorraine, RCN.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Multimédia, votre demi-heure dédiée à l'actualité des médias, en passant par la presse, l'audiovisuel, ainsi que Internet et le cinéma. Vous écoutez bien RCN ou Radio Campus Lorraine sur le 97 FM ou sur EDA+.
Multimédia.
Alors, je suis avec ici une petite équipe ici, Julien.
Bonjour.
Merci de dire bonjour, Pablo.
Bonjour.
C'est bien. Martin.
Et bonjour.
Bonjour.
C'est bon.
Alors, D'abord, on va couvrir les actualités, comme d'habitude. Découvrir une chronique réalisée par Pablo.
C'est moi-même.
Oui, et sur qui?
Sur Yann Moix.
Voilà, le fameux Yann Moix.
Ça donne envie comme ça.
Débrouille avec ça.
Et Martin, tu vas nous le faire sur...
Je vais vous parler de l'arrêt des deux chaînes, mais les vraies de télé, donc c'est vite Énergie 12, mais les vraies raisons, pas tout ce qu'on entend.
Ok.
Bref, bienvenue dans Multimédia. Info numéro 1, donc on va parler du mercato de l'année. C'est notre fameux, on l'aime bien, c'est notre baba, c'est Hanouna. C'est bon, le cordon a été coupé. C8 et Énergie ont fait place à une absence de programmation dans la TNT. Tu en parlais après notamment.
Oui.
Ceci au plus grand dépit de la populaire émission Touche pas à mon poste, animée par vous savez qui. Alors que l'émission a été reprise sur un modèle 100% numérique, donc 100% en ligne, le mercato de l'année, je cite, a été signé. Hanouna va intégrer le groupe M6 avec une diffusion sur W9 en discussion et aussi des émissions sur Fun Radio. C'est un contrat qui est reçu de manière très mitigée au sein des rédactions du groupe, car il y a un mois, souvenez-vous-en, Karine Marchand a menacé de partir si ça arrivait, à voir évidemment sur l'impact des audiences. Alors du coup, on en parlera plus en détail de C8 Energy 12, ça promis, on verra ça avec Martin. Porte close à la Maison Blanche, un autre nom qu'on prononce beaucoup dans cette émission tant qu'il prend de place dans l'actualité. Donald Trump. Ce 12 février, des journalistes de l'Associated Press, ou AP, se sont retrouvés avec l'accès refusé à la Maison Blanche. Pourquoi ? L'agence de presse n'a pas reconnu le changement de nom du Golfe du Mexique en Golfe de l'Amérique. Alors, 10 jours plus tard, le 22 février, l'AP attaque en justice 3 responsables de l'administration Trump. À une quarantaine de sociétés de journalistes états-uniennes soulèvent d'un levé de l'interdiction d'AP aux conférences de presse présidentielles. La Tribune a notamment été reliée par Le Monde. Le soutien est donc international. Wikipédia contre le point. Est-ce que vous avez vu passer ça ou pas ?
Ça me dit quelque chose.
Alors, des fois, la vérité fait le plus mal. Le point a lancé une mise en demeure et une pétition contre Wikipédia. Pourquoi ? Alors, la page Wikipédia du Point, le journal, enfin, mensuel, adresse l'historique du journal avec l'islamophobie, le complotisme et des propos climato-soptiques. Donc, est tel un professeur de lycée, le journal a aussi déclaré « Wikipédia n'est pas une source fiable ». Comme quoi, s'adressant à la fondation mère de Wikipédia, Wikimedia, il demande à la mise en place de garde-fous contre les dérives idéologiques. Wikipédia a répondu, qualifiant cette menace inadmissible. Les contributeurs du site ont d'ailleurs lancé une contre-pétition. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Un journal qui compte changer ses antécédents et qui menace une plateforme de connaissances collaboratives open source ?
Bah, j'y réfléchissais, c'est marrant parce que j'y pensais vraiment hier, je crois. Et en fait, je me faisais la réflexion parce qu'il y avait, il y a quelques semaines, il y avait déjà... c'était qui avait proposé de racheter Wikipédia ?
Mais
Musk,
c'est
c'était
ouais
Musk.
Non mais c'est ça, c'est
c'était
les
Musk. Et justement t'avais le patron qui avait refusé en disant que, enfin pour différentes raisons, mais en gros c'était au nom de la liberté d'expression parce que voilà, faut pas déconner Musk, tu te calmes. et du coup je trouve ça un peu drôle tous les gens qui se retournent contre Wikipédia soi-disant c'est pas fiable alors que bah en général les sources sont citées, donc si c'est pas si fiable bah
voilà. Mais la vérité dérange. Hein, et puis c'est dommage,
ouais,
c'est de la part d'un média. Enfin, le
surtout,
point, c'est quand même normalement des journalistes. Normalement, parce que là, du coup, on se pose la question.
Surtout, va pas se mentir, Wikipédia, j'ai jamais vu un site aussi réactif en ce qui concerne les vérifications d'informations.
Carrément.
Franchement, c'est rapide.
Bah, sur des articles assez connus, on va dire, où il y a beaucoup de passages dessus, effectivement, les fausses informations sont assez rapidement évacuées. Ouais.
Alors, un accord de plus. C'était il y a un mois, on en a un peu parlé, souvenez-vous. Je parle de la menace de Disney+ sur le cinéma français. Alors, notamment autour des délais de sortie. Eh bien, pas de changement avant un petit moment, car Canal+ a réussi à sécuriser un accord pour des droits de diffusion 6 mois après leur sortie en salle, gardant leur pole position sur le cinéma français. Alors, on parle de 480 millions d'euros minimum investi jusqu'en 2027, ce qui est un coup dur pour Disney qui avait obtenu un accord pour passer de 17 à 9 mois après la sortie en salle. Cinémensuel disparaît. Alors, le satirique et dissident de Charlie Cinémensuel, précédemment Ciné Hebdo, disparaît. Le journal satirique subissait des pertes colossales, 16 à 17 000 euros par mois. Leur dernier numéro a été tiré à 40 000 exemplaires. Ciné est mort en 2016 et sur sa dernière rune, on voit Ciné réaliser un dernier bras d'honneur sur nos kiosques de journaux. Quel est votre avis sur la disparition des journaux satiriques ? Parce que c'est...
En fait, là, il y a deux sujets. Il y a le fait que ce soit un journal satirique et le fait que la presse écrite décline.
Oui.
En fait, il y a deux choses.
Ouais.
Ouais. Deux choses différentes.
Ouais, même le dessin de presse en général, finalement.
Oui, je saurais pas dire s'il y en a moins qu'avant, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'en presse écrite, les gens achètent moins, ça c'est sûr. En tout cas, en version papier.
Ouais.
Après, en version numérique, ça c'est encore autre chose, hein, mais c'est dommage. Ils vont garder le numérique ou pas quand même ?
Non, c'est fini. Fini.
Donc, là, effectivement. Donc t'as toute la rédaction qui.
Ouais, c'est ça.
Qui est démantelée.
Ouais, voilà.
C'est dommage.
Trump booste CNews. Alors BFM n'est plus la première chaîne d'info de France, ça déjà battu par CNews, d'un dixième de point d'audience. Eh bien l'élection de Donald Trump a propulsé les chiffres de la chaîne d'information continue. Avec 4 dixièmes de point d'audience, c'est le plus grand écart entre les deux canaux de télévision jamais enregistrés. Alors l'événement en question qui a boosté CNews, c'est Trump et Jade Evans qui sont ouvertement agressifs envers Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche. Voilà, c'est les infos qui sont marquantes. Bezos empiète. Alors, les opinions ont des limites, du moins d'après Jeff Bezos. Ce 26 février, il a annoncé limiter les tribus du Washington Post, qu'il a racheté en 2013, aux libertés personnelles et au marché libre. Il avait déjà dérogé à la pratique habituelle de l'endorsement, c'est-à-dire un média états-unien, souvent soutenant ouvertement un ou une candidate lors des élections présidentielles. Il avait notamment refusé que Washington Post soutienne Kamala Harris. Cette limitation des rubriques d'opinion assez qualitatif présente un risque pour la liberté d'expression aux États-Unis et beaucoup accusent Bezos de s'être rapproché de Trump car il était présent au premier rang lors de son institution. Apathie écartée. Ce mardi 25 février, lors de la matinale de RTL, Jean-Michel Apathy a déclaré, je cite, « La France a fait des centaines de radours sur glane en Algérie. » Réaction immédiate des politiques de droite comme Éric Ciotti, qui déclare sur X, anciennement Twitter, je cite, « Je croyais que Bruno Retailleau avait expulsé tous les influenceurs algériens, mais visiblement, il y en a encore un sur RTL. » Alors, RTL vient alors ce 4 mars. Ouais, c'est Eric Ciotti.
Attends, quoi ?
C'est Eric Ciotti.
Plus on avance, plus fin je.
Il a pété un plomb.
Ça devient fatigant, quoi.
Il y a zéro van, j'ai vraiment cité son tweet.
Ok.
RTL vient alors ce 4 mars d'annoncer que Jean-Michel Apathy est mis en retrait de l'antenne de RTL. Apathy a salué le fair play de cette décision, mais ne s'excuse pas ou ne se retire pas de ses propos, comme déclaré sur l'antenne.
Oui. On a faim. C'est de pire en pire, c'est-à-dire que maintenant tu donnes des faits historiques et maintenant t'es mis en retrait de l'antenne. Enfin, c'est quand même assez hallucinant. Il suffit que l'extrême droite fasse un tweet et hop, ça y est, hop, on saute. À ce rythme-là, on n'est pas rendu, quoi. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, tu supprimes Wikipédia, tu supprimes les gens qui font leur travail de journaliste, en fait.
Ça s'appelle la censure, globalement.
Ouais.
Voilà, c'est...
Attends, pas n'importe quelle censure, la censure quand ça nous arrange.
La censure quand ça arrange.
Bah attendez, on n'a pas fini de parler de chroniqueur, là.
Cool.
D'acier condamné. On sent l'entrain.
Ouais, j'ai trop envie.
Jean-Claude Dacier, chroniqueur à CNews, a été condamné à 1000 euros d'amende pour des propos anti-musulmans. En effet, en 2022, il avait déclaré, je cite, « Les musulmans, ils s'en foutent de la République ». Après le plainte de l'Union des mosquées en janvier 2023, il a été reconnu coupable d'injures publiques en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Lefebvre, regardez. Alors dans la même veine, cette fois dans le cadre du conflit du Proche-Orient, la chroniqueuse aux grandes gueules des RMC, Barbara Lefebvre, s'est fait recadrer par RMC après avoir déclaré, je cite, « Il faut vider Gaza » sur la chaîne de télévision israélienne I24. Alors la CGT a déclaré « Attend des actes concrets ». Le contexte de citation, c'est sa réaction suite à des images de restitution d'otages israéliens. Elle a aussi déclaré, je cite, « Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé. Et payé au prix fort. La bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs. »
Et là, elle n'est pas mise en retrait de l'antenne. Non, là, ça ne marche pas dans ce sens-là.
C'est vrai ce qu'elle dit.
Mais justement, j'allais y venir. On a donc ici deux cas. On a un condamné, donc un, et l'autre sans action juridique encore entreprise. C'est encore un peu trop récent. Que pensez-vous de la multiplication de ces incidents, si j'ose dire, sur nos écrans et sur nos ondes?
Je prends la parole. Perso, moi, ça me fait péter un plomb. Je me dis que c'est de plus en plus normal de donner des infos qui vont uniquement dans un sens, et on commence à le cerner le sens, et de juste tout simplement retirer de l'antenne, ou écarter, ou censurer, ou... Enfin ouais, vraiment.
Non mais là, il y a un virage vraiment très fort éditorial, quoi, partout.
C'est ça, à l'époque c'était juste... Enfin à l'époque, il y a encore pas si longtemps.
Il y a 2 ans, quoi.
Et oui, c'est ça, exactement. Il y a encore pas si longtemps, c'était juste 2... opinions entre guillemets, même si on a bien plus, mais
voilà,
on va dire deux camps qui s'opposent.
CNews était de son côté, il faisait c'est voilà, ça. Et
là,
ça n'influençait pas les autres médias, quoi.
Un parti qui commence à prendre vraiment
le contrôle des médias
et le contrôle de tout ça, ouais. C'est ça qui est, en fait là, ça, on arrive à du pouvoir médiatique, et du coup ça touche autre chose que simplement des opinions qui s'expriment. C'est que là, il y a une prise de pouvoir sur les relayeurs, en fait, de toutes ces informations, et ça devient dangereux.
T'en penses quoi, Julien?
Bah c'est ça, hein. On n'est plus sur du journalisme où on va checker une info, on est plus sur de l'éditorialisme où cette info-là, qu'elle soit vraie ou fausse, j'en ai rien à faire, mais elle me dessert ou elle me va pas, bah on l'enlève, et cette info-là, elle est peut-être fausse, mais je m'en fiche, j'ai envie qu'on le sache et ça m'arrange. Donc,
Et on ne leur dira rien, voilà. À ces gens-là. Voilà.
C'est clair.
Que dans l'autre sens, c'est pas le cas.
Ouais.
Voilà. Et derrière, t'as des gens qui font des écoles de journalisme pour avoir des infos vraies, vérifiées, nanani, nanana.
C'est ça, quoi.
Puis qui vont se faire refuser parce qu'ils disent pas ce que les propriétaires des chaînes pensent, quoi.
Bah, après, ils ont commencé à être sur les écoles aussi.
Oui, bah c'est Bolloré qui. Non, c'est pas Bolloré qui a racheté le SJ de Paris.
Il a acheté une partie avec
ouais,
d'autres.
C'est ça,
d'autres
il devient actionnaire majoritaire d'une école de journalisme, de tout va bien.
C'est ça. Et, voilà. aussi une autre école, une institut de journalisme aussi, j'ai plus le nom exact. Qui est d'extrême droite, voilà, donc qui a des contacts directs avec CNews et tout. Donc bon, c'est tout en tout cas pour les informations. Je vous propose une pause musicale, on s'écoute Clint Eastwood de Gorillaz, et juste après, on va enchaîner avec les deux chroniques, c'est-à-dire de Pablo et de Martin. A tout de suite.
I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in
a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless, right? Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Multimédia, une coproduction Radio Campus Lorraine, RCN.
Et on est de retour sur RCN, vous écoutez bien Radio Campus Lorraine ou alors RCN sur DAB+ ou sur le 90.7 FM. Pablo, c'est à toi.
Je m'engage. Alors, on va parler de Yann Moix. Yann Moix, il a été invité sur Europe 1 dans l'émission de Pascal Praud à l'occasion de la sortie de son nouveau livre et 15e roman Apnée. Vous voyez tous Yann Moix ?
Oui,
à peu près. Bon, on va faire un court résumé, mais c'est un écrivain, animateur radio, chroniqueur dans On va se gêner, On n'est pas couché, L'heure des pros ou encore Touche pas à mon poste, il en a fait plein. Un CV bien chargé, un monsieur controversé avec quelques polémiques sur le dos, mais bref, son bouquin. Le synopsis, pour reprendre ses termes, c'est que le XXe siècle continuerait d'exister sous l'eau, dans les océans, où tous les événements macro et microscopiques entre 1900 et 2000 continueraient de se dérouler sur eux-mêmes jusqu'à la fin des temps. Bon, sur le papier, why not ? J'ai même envie de dire que je pourrais lire un truc comme ça, si seulement il n'y avait pas un mot inconnu par groupe nominal. Je vous en propose un extrait. James Dean est là, devant nous, mort, l'air satisfait. Le siphosnostome qui passe ne lui fait aucune impression particulière. Bonne ou mauvaise, tout doucement une couronne de cérian se pose sans aucun poids sur son front rempli de paix. Un flux de poids dissimule la présence à dépouille en espèce de ciganon affreux. S'approche et la tristesse du spectacle en est aggravée. Désolé, j'arrive pas. Après, c'est peut-être ma faute, hein. Je sais que je lis pas assez. Moi-même, je me le dis. Je saigne du nez quand je lis plus de 10 pages de suite de Herman Hesse. Mes références littéraires, c'est Elmer, l'éléphant multicolore et Kid Paddle. Donc c'est pour vous dire que je suis pas objectif et que c'est possible que le répertoire de Yann Moix vous convienne, que ce roman vous émeuve, que ces descriptions prolongées, neurasthéniques, et conceptuellement riche, fasse vibrer le don sensible silencieusement logé dans les cavités zombifiées et nerveuses qui représentent vos corpulences individuelles. Ouais, je sais. Bref, donc son bouquin, il a aussi une autre particularité au-delà de sa richesse linguistique. C'est un livre en alexandrin. Ouh,
wow.
Ah,
révolutionnaire.
Incroyable, je pense que c'est stylé, j'ai jamais essayé, jamais lu non plus, comme vous vous en doutez, mais ça doit être stylé. Donc cet ouvrage, il fait 300 pages, il a mis 5 ans à l'écrire parce que soi-disant c'est compliqué d'écrire en alexandrin toute la journée. Bref, il dédie un chapitre entier à une synthèse des mots MAUX du 21e siècle dont sur 30 pages. Explore les raisons pour lesquelles il vaut mieux rester sous l'eau, donc au 19e siècle, faut suivre. Bref, on accueille un recueil de souvenirs d'une époque où fleurissaient les prémices et les premières esquisses de notre société actuelle, dont notre chère Yann semble bien nostalgique. Mais c'est pas pour promouvoir ces textes que j'écris cette chronique, vous commencez à me connaître, ici on pointe du doigt les gens méchants, donc allez hop, ça dénonce. En dehors de la promotion de ce livre, donc, Pascal Praud recevait également son auteur pour discuter de la polémique à laquelle il est mêlé ces derniers temps. Vous vous souvenez sûrement qu'on avait pu savourer un superbe documentaire il y a plus d'un an maintenant, documentaire dans lequel on pouvait entendre Obélix grogner sur de jeunes fillettes nord-coréennes et proférer des remarques à la hauteur d'un sanglier en rut, mais un sanglier pédophile et français du coup. C'est, je sais pas si ça vous revient un peu,
ouais,
ces images.
Malheureusement,
voilà.
J'ai les images en tête.
Donc récemment, d'autres images ont été révélées qui montrent que Gérard Depardieu et Yann Moix étaient tous deux rassemblés en Corée, contexte dans lequel ces images avaient été filmées. Et dans un nouvel extrait, on voit les deux intellectuels parler des femmes main dans la main, ou plutôt main dans le caleçon, lol, avec une répugnance palpable et un irrespect naturel. Naturellement glauque. On y entend par exemple, ce sont des femmes abîmées, c'est des femmes qui ne ressentent rien donc faut cogner, elle est maintenant avec un mec encore pire, une fiotte. Ou encore, d'ailleurs, tous les PD, ça se voit pas, c'est une gueule de saloperie. Ou aussi, elle est très jolie, t'as vu. Et pas mal d'autres propos délicieux. Je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux si vous êtes curieux. Mais faites ça entre les repas, par contre, parce que ça peut générer des réflexes vomitifs. Ces images, elles sont choquantes parce qu'elles remuent le couteau dans la plaie de celles révélées par l'acteur, sur l'acteur de Cyrano de Bergerac il y a quelques mois. Mais cette fois, ça inculpe un autre membre de la prestigieuse culture française. Il faut préciser aussi qu'à l'époque, Yann Moix était désolidarisé. En 2023, des propos tenus par Gérard Depardieu, donc bien avant que les siens soient mis en lumière. Et cette fois-ci encore, Yann Moix a réagi donc sur Europe 1 après avoir tenté d'esquiver la diffusion du fameux passage, mais cette fois pour se défendre en expliquant que ce n'est pas un documentaire mais un film de fiction. Je l'explique, à ses heures perdues, Yann Moix est réalisateur et apparemment ses dialogues seraient des extraits de son prochain film nommé 70, dans lequel il interpréterait volontairement et sciemment ce personnage dégueulasse et avec comme camarade à l'affiche de ce film Gérard Depardieu dans le rôle de Gérard Depardieu. Bon bah pour lui on n'a rien à faire, on peut plus le sauver. Donc les acteurs ils seraient filmés 24 heures sur 24 avant de trier au montage vraisemblablement les interventions les plus crades afin d'en constituer un film. Cela expliquerait pourquoi il porte un micro et il accuse par ailleurs son producteur de lui avoir volé ses rushs pour les dévoiler en douce à Libération. Bon,
ouais.
Soit, pas con comme défense, mon Yannou, mais rester 24 heures sur 24 dans un personnage, j'en connais pas beaucoup des acteurs qui arrivent, il y a forcément des moments où t'as besoin de pisser, de respirer un coup, ou de grogner, selon la dose de vin ingurgité. Aussi, même avec des micro-cravates, on les entend à peine. Je que reconnais quand il y a messe basse sans curé, et là mon petit doigt me dit qu'on les a pas briefés sur la sensibilité des micros. Par ailleurs, pour l'anecdote, Yann Moix il disait il y a quelques années qu'il ne pouvait pas sortir avec des femmes de plus de 25 ans. Il est de 68, faites le calcul. Affirmation qu'il a finalement démentie en disant qu'il était en fait bloqué dans un processus psychanalytique par rapport à la mère. Et qu'en disant ça, il se plaignait. Moi, loulou, j'ai presque envie de lancer une cagnotte pour rembourser ses frais chez le psy. Et j'ai un peu fouillé. Et il n'est pas non plus à sa première controverse ni à ses premiers retournements de veste. Il a notamment été sujet à une polémique sur des textes antisémites et négationnistes publiés dans ses années étudiantes, collaborant à trois numéros de Ushuaïa, un magazine de fabrication artisanale négationniste et qui véhiculait un antisémitisme extrême et un racisme virulent à l'encontre des Noirs. Ce qu'il a démenti. D'abord, il faisait que recopier parce qu'il avait la meilleure écriture. Puis il a avoué qu'il avait en fait intentionnellement écrit. Puis en fait, c'était un pote à lui. Plus lui du tout. Puis en fait, c'est bien lui, mais il a grandi depuis et il a honte de l'homme qu'il était. Bref, donc le passé ne prévoit pas le futur, surtout s'il a pris conscience de ses erreurs. Mais c'est pour rappeler que ce monsieur a un CV solide en termes de discours discriminant et d'excuses plus ou moins bidons pour couvrir ses bêtises. On dirait un peu un chien qui a bouffé la moitié de la table basse pendant que t'étais au boulot et qui remue la queue avec son sourire de petit con quand tu reviens à la maison. Plot twist, il recommencera. Et pour clôturer l'émission de Pascal Pro, on a le droit à la plus sincère auto-fellation jamais procurée par un être humain.
Je trouve que d'abord Gérard Depardieu est un immense comédien.
Non mais bien sûr, et moi je suis un immense écrivain, donc vous voyez bien aussi le point commun qu'il y a. Il y a une haine du talent, une haine du génie.
Voilà, je savais pas qu'on pouvait s'auto-diagnostiquer génie. Quoique c'est peut-être le même psy que celui qui lui a trouvé son blocage psychanalytique par rapport à sa mère. En tout cas, tous ces éléments trouvés par votre enquêteur préféré, c'est moi, semblent tous converger vers une issue tragique. En plus d'être un gros dégueulasse, Yann n'est pas la personne idéale à qui confier un secret compromettant. Grâce à lui, le marché de la veste réversible empile des investissements jamais battus depuis les années 80. Mais à cause de lui, on se rend compte que le sexisme, la misogynie et les discriminations sont encore trop couvertes et parfois même assumées dans le milieu culturel élitiste et dans le showbiz international et français. Donc ne fermons pas les yeux, c'est en dénonçant qu'on avancera sur des sujets aussi anciens et pour autant encore trop actuels. Une œuvre doit-elle être considérée dans son entièreté? Faut-il séparer l'homme de l'artiste? La culture, c'est aussi vous qui la ferez avancer. En attendant, on garde le smile. Merci de m'avoir écouté.
Bravo.
Merci. Pablo pour cette. Alors, figure-toi que la moitié des trucs que t'as dit, enfin que t'as dit sur Yann Moix,
oui,
je savais pas.
Voilà,
j'étais pas du tout au courant pour tout négationniste. Ouais.
Bah, c'est pas trop notre génération non plus.
C'est ça, ouais, c'est pour
c'est
ça
bien.
J'ai fait.
C'est important.
J'ai fait quelques petites recherches et ouais, il a pas mal de. Très controversé, pas mal de choses qu'il dit.
Deux, trois petits trucs, quoi. Deux trucs par là.
Des voilà, choses et d'autres.
Des broutilles.
Et j'ai trouvé ça assez rigolo. C'est parce que quand il y avait des choses un peu controversées, un peu qui tendaient vers l'antisémitisme, ce genre de choses, il retournait pas mal sa veste. À dire qu'en fait c'est les autres et en fait ils pensaient pas comme ça et qu'en fait c'est les autres.
Honnêtement, je serais vraiment pas étonné je serais pas étonné qu'il ait genre 20 articles Mediapart à son nom.
C'est possible à vérifier.
C'est à ton tour, Martin. oui. pour clôturer cette émission.
Exactement. Bah, allez, on va reparler des chaînes Énergie 12 et C8. Vous allez me dire quoi encore? Bah oui, mais cette fois-ci, je vais donner les raisons officielles de ces chaînes parce que la désinformation à ce sujet est très très virale. Elle vient même des principales chaînes concernées. Donc, on va remettre la loi et l'ARCOM au centre du village. Donc, oui, depuis le 1er mars, vous l'avez peut-être remarqué, il y a deux chaînes en moins sur la TNT. Mais comment on peut fermer une chaîne? Et c'est encore un coup des gauchistes, ça. Et puis, quel droit à l'ARCOM pour faire ça? C'est de la censure. On n'a pas fermé France Inter, hein. Tiens, tiens, c'est étrange. Et qu'est-ce qu'il va y avoir à la place de ces deux chaînes? C'était pour faire Terra Nouna, hein. Bon, beaucoup de questions auxquelles je vais essayer de répondre, pas mal de fact-checking, tout ça en 5 minutes, ça va être dur. Enfin, si j'étais payé pour chaque fake news, enfin, non, déjà si j'étais payé, puis si j'étais payé pour chaque fake news que je vais corriger, je serais milliardaire d'ici la fin de la chronique. Alors, on va commencer depuis le début, c'est mieux quand même pour une histoire. Il était une fois au pays de la télévision française au début des années 2000, 6 chaînes de télé qui se battent les parts d'audience. En 2005, un nouveau-né arrive, la TNT, Télévision Numérique Terrestre. Et pour l'occasion, on va passer de 6 chaînes à 13 avec la création de nombreuses nouvelles chaînes. Et pour cela, l'ancien nom de l'ARCOM, le CSA, attribue des fréquences sous contrat. Parmi elles, Énergie 12 et Direct 8, renommé plus tard C8 quand Bolloré rachètera Canal. Donc oui, vous avez bien entendu, sous contrat. Et comme n'importe quel contrat, si tu ne respectes pas, t'es viré. Et donc il s'agissait de contrats de 10 ans en 2015, donc renouvellement des fréquences. Cette année-là, les chaînes créées en 2005 sont toutes reconduites, en plus de la création de nouvelles chaînes. Donc là, un nouveau contrat est signé pour toutes les chaînes et c'est reparti pour 10 ans. Nous voilà donc en 2024, on discute du renouvellement des fréquences pour 2025. Sauf qu'entre-temps, bah, certaines chaînes n'ont pas trouvé leur public, hein, notamment Énergie 12, et d'autres ont tellement trouvé leur public bah, qu'ils commencent à faire n'importe quoi, comme c'est vite. Donc bah, là, c'est comme au travail ou à l'école, on dit attention au début, puis ensuite, la prochaine fois, ça va barder. Hein, et puis après, là, je vais me fâcher tout rouge. Hein. Puis après, tombe un premier avertissement ou sanction, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7... 8, 9, 10, vous me dites quand je m'arrête hein, parce que ça peut être très bon. 12, 13, 14, 15, bon, à ce rythme-là, on est encore là demain. En résumé, 35 sanctions ou mises en garde pour la seule chaîne C8 hein, en 12 ans. Bravo, là je crois qu'on a affaire à des experts quand même. J'ai l'impression qu'ils y ont pris goût. Au total, c'est plus de 7 millions d'euros d'amende aussi pour la chaîne. Bon, après, vu la fortune de Bolloré, on n'est pas à quelques millions près. Alors je vous vois venir, oui, mais c'est pourquoi ces sanctions, c'est de l'acharnement. Bon, je vous laisse vous faire votre propre avis, mais voici les motifs des sanctions. Attachez-vous. Non-dissimulation de marque, propos discriminatoires sur les personnes handicapées, gifle en direct, canular téléphonique homophobe, attouchement en direct, faux reportage, diffusion de photos compromettantes. Là, on n'a qu'à la moitié. Hein. Courage. Mais là, je crois que ces derniers jours, on n'a pas trop entendu ces arguments dans les médias de Bolloré. Donc, respirez un beaucoup, on y retourne. Diffusion d'un film anti-IVG, fausses informations, insultes contre des élus, faux invités, théorie du complot, insultes, baisers forcés et dénigrement de candidats à une élection. Ça, c'est en résumé. Donc, on peut dire ce qu'on veut, mais là, il y a quand même 2-3 trucs qui n'ont pas été respectés dans le contrat.
Ouais,
en plus, bah, niveau finance, C8 et Énergie 12 sont en rouge hein, depuis leur création, perdant plusieurs dizaines de millions d'euros par an chacune. Vous ajoutez à cela que des propositions de nouvelles chaînes ont été faites et que deux d'entre elles ont visiblement séduit l'ARCOM. Vous avez une bonne partie des éléments qui expliquent le choix de ne pas renouveler C8 et Énergie 12. Ces chaînes n'ont donc plus la possibilité de diffuser sur la TNT, mais rien ne les empêche de continuer sur les box, internet et les plateformes, etc. Dernier élément, l'ARCOM est l'autorité compétente en ce qu'il s'agit de la régulation de la télévision. Donc je ne rentre pas dans le débat de leur neutralité parce qu'on n'irait pas bien loin puisqu'on n'a pas d'éléments. Mais alors oui, c'est vrai, par contre, les membres de l'ARCOM sont en partie nommés par le président de la République et les institutions. Mais j'ai pas d'éléments pour dire qu'il roule pour Macron, à moins d'inventer des théories fumeuses, voire inventer des histoires comme sur Bolloré TV. Bon, je vais y arriver, Bolloré TV ou Radio, en fait j'arrive même pas à prononcer son nom. Il y en a une que j'ai beaucoup aimée, comme quoi un journaliste d'Europe 1 aurait surpris des membres de l'ARCOM au restaurant à midi en train de dire qu'ils avaient obéi à Macron au sujet donc, de la fermeture de C8. Restaurant qui était à proximité du siège de l'ARCOM, bon, ça se tient, sauf que, petit souci, ils ont déménagé à l'autre bout de Paris l'année dernière. Quoi, vous n'avez pas déjà déjeuné à Metz entre midi et deux, non? Bon, pas de bol, la prochaine fois, vous vérifierez au moins l'adresse quand vous êtes censé être journaliste. D'ailleurs, on attend toujours les images parce que vous nous avez dit que vous les aviez quand même, donc bah, moi j'attends toujours. Bref, résumons, l'ARCOM a la compétence légale de livrer les autorisations de diffusion sur la TNT. Énergie 12 et C8 sont donc tous deux en plus en déficit important depuis des années. C8 collectionne les amendes et les rappels à la loi, ça fait pas mal d'éléments qui expliquent leur non-renouvellement sur la TNT. Et non, encore une fois, l'ARCOM n'a pas fermé Énergie 12 et C8. Ce sont leurs groupes respectifs qui ont pris cette décision, puisqu'ils auraient pu continuer en numérique ou autrement. Il n'y a pas que la TNT et encore moins aujourd'hui. Hein. Et puis pour finir, l'argument c'est de la censure. Bah non, regardez Hanouna, il fait toujours d'énormes audiences sans la TNT et on l'a jamais autant entendu. Allez, bisous mes chéris.
Merci Martin pour cette chronique et merci Pablo et merci à vous d'avoir écouté cette émission. multimédia. Mais voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro de Multimédia sur les ondes de RCN et de Radio Campus Rennes. C'est un plaisir de pouvoir être là avec une telle équipe. Merci Martin, merci Pablo, merci Julien. Avec moi, je vous dis au mois prochain, en avril, pour le prochain numéro de Multimédia. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.